Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mercredi 2 janvier avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir par un coup de semonce.
Les États-Unis qui vont envoyer des milliers de soldats en Europe de l'Est pour rassurer leurs alliés de l'OTAN. 2000 GIs notamment envoyés en Pologne depuis une base américaine. Premier renfort militaire de cette ampleur depuis le début de la crise ukrainienne. Nous serons à Washington dans un instant. Quand la droite courtise le vote policiers, les candidats de la droite et de l'extrême droite invités aujourd'hui par le syndicat Alliance à décliner leur proposition, un concours de preuves d'amour raconté par le service politique. À suivre aussi Emmanuel Macron qui lui se focalise sur les territoires déshérités du Nord-Pas-de-Calais. La Réunion en alerte rouge cyclonique, Nordal Lelandais à la barre pour décrire sa vie sans horizon et puis la mort de l'immense actrice Monica Vitti. Nous serons en Italie pour lui rendre hommage.
À 18h15, un jour dans le monde à 48h. De ces JO d'hiver à Pékin sans neige et sans public, des JO qui se veulent une ouverture sur le monde et qui vont se dérouler dans une Chine fermée hermétiquement, fermée à cause du Covid, fermée dans sa politique comme jamais, et cette drôle de photo de famille avec les dirigeants qui viennent à cette cérémonie d'ouverture. À 19h20, dans le téléphone sonne la levée des restrictions qui a commencé aujourd'hui. Vous avez noté peut-être un air de changement dans votre entreprise, dans les lieux désormais sans jauge. Évidemment, on a tous le cerveau coupé en deux, hein. Il était temps ou c'est trop tôt, eh bien on attend vos avis, vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Washington décide donc de montrer les muscles face à Moscou.
Nouvelle étape en effet dans la crise ukrainienne face aux 100 000 soldats russes positionnés à la frontière ukrainienne. Les États-Unis envoient des troupes en Europe. Pas question d'entrer en Ukraine et encore moins d'aller au front. Mais c'est une première depuis le début de cette crise diplomatique. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir.
Correspondant de France Inter à Washington, c'est Joe Biden qui l'a décidé ce matin.
Oui, c'est le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le chef d'état-major des armées, le général Mark Milley, qui ont présenté le plan au président hier matin, au traditionnel briefing quotidien à la Maison-Blanche. Et Joe Biden, effectivement, a donné son feu vert aujourd'hui. Alors, dans le détail, 2000 soldats de la 82e Airborne vont quitter la base de Fort Bragg, en Caroline du Nord, dans les prochains jours, peut-être dès cette semaine, direction l'Allemagne et surtout la Pologne. Et 1 000 000 d'autres, déjà basés en Allemagne, vont être, eux, repositionnés en Roumanie, où 900 sont déjà présents et où la France a également décidé d'envoyer des forces. Alors, que partent faire ces soldats américains? Eh bien, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, vient de donner des précisions.
Je veux être très clair sur un point. Il ne s'agit pas de mesures permanentes. Il s'agit de répondre à la situation sécuritaire actuelle. De plus, ces forces ne vont pas se battre en Ukraine. Elles vont renforcer la défense de nos alliés de l'OTAN.
Voilà, les troupes américaines ne devraient donc pas rentrer en Ukraine, contrairement aux plusieurs centaines de formateurs militaires et de membres des forces spéciales qui s'y trouvent déjà. Leur mission est plutôt prévue pour une éventuelle évacuation des quelques 30 000 Américains présents dans le pays. Le Pentagone prévoit enfin d'autres mouvements de troupes en Europe. 4 000 GIs, vous le savez, sont notamment déjà en Pologne. Et il vient d'ordonner le Pentagone à plusieurs milliers d'autres soldats de se tenir prêts ici aux États-Unis, en plus des 8 500 déjà mis en alerte la semaine dernière.
Les précisions de Sébastien Paour, notre correspondant aux États-Unis en direct de Washington. Aucune réaction ce soir de Moscou, ni des alliés de l'OTAN.
L'actualité en France, c'est l'audition tendue des dirigeants d'Orpea devant les députés.
La direction du groupe était convoquée aujourd'hui par la Commission parlementaire des affaires sociales. Il n'existe pas de système pour optimiser le profit dans nos EHPAD, s'est défendu le nouveau PDG. Pour le directeur général, des propos décrits dans le livre à l'origine de ce scandale ont pu, je cite, se produire, mais il relève de l'humain, de l'erreur. Pas de remise en question donc face aux députés. Visiblement très agacé par ses réponses, l'audition a été arrêtée pour aujourd'hui. On y revient en détail dans le journal de 19h d'Hélène Philippe. Puis ajoutons Corpéa, son ancien directeur, est aussi accusé dans le Canard enchaîné d'avoir empoché 590 000 euros l'été dernier en vendant ses actions peu de temps après avoir été informé de la sortie du livre Enquête de Victor Castanet. En politique, la campagne met le cap sur la sécurité. Grand oral aujourd'hui des principaux candidats de la droite et de l'extrême droite devant le syndicat Alliance, marqué lui aussi à droite. Pas un candidat de gauche n'a accepté l'invitation et Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a pas été invité. Ce matin, Valérie Pécresse a proposé une peine de prison automatique d'un an ferme si, dit-elle, on touche à un policier ou un gendarme. Et c'était cet après-midi au tour d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Discours tous les deux très centré sur l'immigration.
Oui, l'immigration zéro, mère de toutes les batailles, a rappelé Éric Zemmour, qui a construit tout son programme à travers le prisme d'une guerre civilisationnelle, y compris donc la question de la police.
Vous n'avez pas à faire seulement face à des délinquants. Vous êtes aux premières loges d'un conflit de civilisation. Il y a deux civilisations sur notre sol et elles ne peuvent pas coexister pacifiquement. Vous êtes donc agressés en permanence car vous représentez la France.
Voilà pourquoi, poursuit Éric Zemmour, il faut donner à la police les moyens de se défendre, égrenant les mesures dont la présomption de légitime défense pour les policiers ou l'expulsion des délinquants étrangers. Dans le fond, peu de différence avec Marine Le Pen. La candidate du RN s'est en revanche davantage attardée sur tout le volet social. Comment améliorer la vie des policiers ?
Il faut vous donner accès à une mutuelle très accessible mais très efficiente. Il faut veiller à limiter les rappels de service et sacraliser certains jours de repos, notamment pour les événements familiaux particuliers.
Face aux candidats des policiers attentifs, parfois un peu dubitatifs, Renaud Mazoyer, délégué national CRS.
C'est un peu qui lave plus blanc que blanc, c'est qui va flatter un peu plus le public auquel il s'adresse. On n'est pas dupes, mais il y a quand même des choses intéressantes qui ont été évoquées.
Avec pour Renaud Mazoyer une priorité, le durcissement de la réponse pénale qui a été promis aujourd'hui par tous les participants à ce grand oral.
Élodie Forêt, puis avant même l'audition des candidats, Alliance avait choisi de diffuser le film Bac Nord, racontant le quotidien de policiers de la BAC dans les quartiers nord de Marseille. Une récupération politique que dénonce le réalisateur Cédric Jiménez. Sa réaction à retrouver en interview sur franceinter.fr. A l'inverse, il n'y avait que des candidats de gauche à la présentation du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement. 4 100 000 personnes souffrent aujourd'hui de mal logement en France, dont 300 000 sans domicile fixe. Le logement, un dossier partiellement délaissé sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Le président a lui-même admis ce matin en visioconférence devant la Fondation Abbé Pierre que l'exécutif n'avait pas réussi, je cite, à aller suffisamment loin sur la production de logements sociaux. Le chef de l'État, qui était par ailleurs en déplacement express aujourd'hui dans le Nord et le Pas-de-Calais, notamment pour parler investissement dans les territoires les plus fragiles. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Emmanuel Macron était donc en visite cet après-midi dans le bassin minier de Liévin, où le chômage est deux fois plus élevé que la moyenne et où la campagne s'invite, quoi qu'il en dise.
Oui, l'ambiance a beau être d'abord au recueillement, hommage aux 42 mineurs tués ici en 74, devant la stèle, des veuves l'interpellent.
Moi, je voudrais vous demander quelque chose.
Allez-y, madame.
Je voudrais que vous pensiez un petit peu aux retraités.
On ne demande pas la charité. On demande de vivre normalement. Vous voyez, vous donnez 100 euros aussi. Ça ne me touche pas.
Référence au chèque inflation. Emmanuel Macron ne répond rien. Un peu plus tard, débat avec les élus. Il promet 100 millions de plus. Admet que ça n'avance pas assez vite. Le patron de région, Xavier Bertrand, s'agace.
100 millions, on ne va pas se raconter l'histoire. Les cités minières, les espaces publics, les bâtiments publics, ça fait pas la maille, hein. Il n'y a pas assez.
Faites pas de mauvaise polémique aujourd'hui, voyons. Vous avez souhaité prendre votre responsabilité et nous avons été là pour la garantir et l'accompagner. Et nous le serons dans la durée.
C'était le message. L'État s'engage, quoi qu'il advienne, notamment pour un RER entre le bassin minier et la métropole lilloise. Mensonge, réplique le porte-parole de Valérie Pécresse.
Les engagements qui ont été pris il y a quelques années n'ont pas été tenus. Alors que penser d'engagements pris à 2 mois de l'élection ? C'est un déplacement d'un candidat qui ne veut pas dire qu'il est candidat, avec des mensonges et des contre-vérités. Candidat peut se permettre de mentir comme il le fait. Pas un président de la République, normalement.
Tous les coups sont permis. Emmanuel Macron est alors à 5 mètres de lui entre selfie et remerciements d'élus. L'Élysée écoute d'une oreille et prend note. Le chef de l'État a promis de revenir dans la région.
Maxence Lambrecq en direct de Liévin dans le Nord avec Frédéric Kérou. Le chef de l'État est maintenant au Louvre-Lens pour parler passe culture pour les jeunes. Il sera ensuite à Tourcoing pour recevoir les 27 ministres européens de l'Intérieur avec au menu accord de Schengen et gestion de l'immigration en Europe. Au chapitre européen, justement, la commission commission de Bruxelles a officiellement approuvé le gaz et le nucléaire comme énergie verte de transition, une décision qui provoque la colère des ONG, mais aussi de l'Autriche et du Luxembourg qui entendent porter plainte devant la Cour de justice de l'Union européenne.
La Réunion, Sébastien, sous la menace d'un violent cyclone.
Oui, cela fait près de 10 ans que l'île de la Réunion n'avait pas connu un cyclone d'une telle puissance avec des vents potentiels de plus de 200 km/h. Bonsoir Yann Gallic.
Bonsoir.
L'alerte rouge a été déclenchée par les autorités locales et appelle les habitants à se confiner totalement.
Et depuis 19h, heure locale, tous les habitants doivent rester à l'abri, calfeutrés chez eux. Les conditions météo se dégradent rapidement avec déjà des pluies importantes dans le sud de l'île et une forte houle sur le littoral. Fabienne Gros habite dans une maison du centre-ville de Saint-Denis.
Là déjà, il y a beaucoup de vent. Personne n'a le droit de sortir, sauf les services d'urgence. On est vraiment tenu bien au courant par tous les médias, etc. Ils rabâchent les consignes, faire des provisions d'eau, avoir une radio avec des piles, ranger. On n'a pas peur, mais bon, je pense qu'on va pas bien dormir.
Le cyclone a pris de la force ces dernières heures. Selon les prévisions, il devrait passer à un peu plus de 100 km des côtes au nord de l'île, avec des rafales de vent qui pourraient atteindre près de 250 km/h sur les hauteurs, indique Othman Zahir, le directeur du cabinet du préfet de la Réunion au micro de France Info.
Le dernier cyclone de cette envergure remonte à 8 ans. Il a marqué les esprits à La Réunion et ce cyclone s'apprête à impacter l'île de la même manière, c'est-à-dire avec des vents très violents, des précipitations abondantes avant, pendant et bien après le passage du cyclone, avec toutes les conséquences que ça peut apporter sur la praticabilité des routes, mais aussi sur les glissements de terrain.
Des centres d'hébergement d'urgence ont été ouverts dans la plupart des communes pour accueillir les éventuels sinistrés. L'alerte rouge devrait être maintenue au moins jusqu'à demain matin.
Yann Gallic, et puis on l'apprend, la métropole ex-Marseille-Provence a annoncé ce soir sur France Bleu Provence la fin de la grève des éboueurs de Marseille qui perturbe fortement la collecte des poubelles depuis plus de 10 jours. L'étau des restrictions sanitaires se desserre depuis ce matin. Plus de masques dans la rue, plus de télétravail obligatoire, plus de jauge dans les salles. Les écoles, elles connaîtront leur nouveau protocole la semaine prochaine. Une concertation sera organisée avec les syndicats. Sa parole était très attendue depuis le début du procès. Nordal Lelandais, accusé du meurtre de la jeune Maëlys, était interrogé pour la première fois aujourd'hui par la cour d'assises de l'Isère à Grenoble. Bonsoir Mathilde Vinceneux.
Bonsoir.
L'ancien maître chien racontait à la barre son parcours de vie, une série d'échecs sans perspective, Mathilde.
Oui, l'école, c'était pas trop mon truc, explique le Landais, debout dans le box, chemise blanche et mains jointes. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné, demande la présidente. Je ne m'en donnais pas les moyens, répond l'accusé. Après, il y a eu l'armée, 4 ans, comme maître chien. C'était quelque chose de très important pour moi. Je voulais faire carrière, mais j'ai été déçue. Quand il retourne chez ses parents, il enchaîne petit boulot, chômage, arrêt maladie. Avec les femmes, j'arrivais pas à m'investir. C'était beaucoup de plans sexuels. Vous vous êtes réfugié dans l'addiction au sexe, interroge la présidente. Oui, je faisais n'importe quoi. Le porno, il se met à en regarder plusieurs heures par jour. Dès le matin, je prends un café, une clope, je regarde des vidéos et je prends de la cocaïne. Voilà mes journées. Mais qui êtes-vous, insiste la présidente. Aujourd'hui, je suis monsieur Lelandais Nordal devant une cour d'assises et je dois m'expliquer sur des faits très graves. Aujourd'hui, je sais qui je ne veux plus être. J'étais perdu, lâche l'accusé.
Mathilde Vinceneux avec Marc Garvenès en direct de Grenoble.
Et puis, elle était aussi drôle que ténébreuse.
Monica Vitti, l'une des plus grandes actrices italiennes, disparue aujourd'hui à l'âge de 90 ans. Une carrière immense, des comédies italiennes à la mélancolie d'Antonioni, son réalisateur fétiche. La mort d'une muse saluée aujourd'hui par tout le monde du cinéma, de la culture et de la politique en Italie, à Rome, Bruce de Galzin.
Elle avait un talent sans limite, Monica Vitti, ici dans l'Aventura d'Antonioni, la plus grande de toutes, dans un cinéma dominé par les hommes à la fin des années 50, selon l'acteur Carlo Verdone, qu'elle avait encouragé à ses débuts.
Elle ne voulait pas faire de cinéma à l'origine, elle voulait faire du théâtre, mais elle a été remarquée par Antonioni, qui lui a fait faire du cinéma intime, complexe. Puis elle a joué dans le registre comique avec Alberto Sordi. Il m'avait confié qu'elle était pour lui l'artiste parfaite. C'est une actrice qui devrait vraiment être étudiée par les futures actrices.
Macaluso Vincenzo.
Elle détestait sa voix rauque, Monica Vitti, elle qui connaissait tous les dialectes et accents italiens. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle n'était plus apparue en public depuis 20 ans. Le ministre de la Culture dit adieu à la reine du cinéma italien qui a remporté 37 prix dans sa carrière. Mario Draghi salue une actrice d'une grande ironie et d'un talent extraordinaire qui a fait briller le cinéma italien dans le monde entier. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
La mort de Monica Vitti à 90 ans, toute sa biographie à lire aussi sur le site d'Inter.
Merci beaucoup Sébastien Nogeni, à tout de suite bien sûr dans Un jour dans le monde.